France Inter.
Journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Du sucre à la une ce matin, il y en a partout dans les produits transformés qu'on achète au supermarché. Résultat d'une vaste enquête des autorités sanitaires, le sucre et ses effets délétères. La bonne nouvelle, c'est que les industriels ont la main un peu moins lourde depuis 10 ans, détail dans un instant. Les fonctionnaires appelés à la grève aujourd'hui pour les salaires et l'attractivité des métiers, alors qu'une première audience contre l'État aura lieu en justice. Des parents attaquent sur le sujet des professeurs non remplacés. 5 conditions à remplir pour accéder à l'aide à mourir. Le gouvernement a envoyé son projet de loi au Conseil d'État. Quant à vous, Nicolas et Léléa, vous occupez tout à l'heure du bien vieillir.
Oui, ce sera dans le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Nos invités tout à l'heure.
Oui, c'est un sujet qui concerne tout le monde, toutes les familles, le grand âge. Que faire pour nos personnes âgées pour qu'elles vivent au mieux cette période de leur vie? Eh bien, alors qu'une proposition de loi sur le bien vieillir arrive à l'Assemblée nationale, on en parle avec la rapporteure Annie Vidal, avec le journaliste Victor Castanet et le directeur général du groupe Orpea, Laurent Guillot.
Et vos questions au 01 45 24 7000.
D'ici là, Rio ne répond plus, accablé sous une chaleur inédite, plus de 60 degrés de température ressentie, on a du mal à imaginer. On entendra des cariocas, nous serons aussi avec des éleveurs et des loups en Bretagne, avec des youtubeurs fatigués et dans les arcanes d'une campagne présidentielle, c'est la série Dans l'ombre, adaptée du roman d'Edouard Philippe en compétition cette semaine à Sérimania.
France Inter.
Diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Les dangers du sucre à outrance ne sont plus à démontrer. Or, on en consomme toujours trop dès le plus jeune âge, car il y en a trop dans les aliments industriels. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
L'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation en a passé de ses produits plus de 50 000 au crible entre 2008 et 2020. Enquête inédite qui révèle que le sucre est partout, même quand on croit manger salé.
Oui, bouillon et potage, biscuits apéritifs, charcuterie, plats cuisinés, il y a beaucoup de produits salés qui contiennent du sucre. Et puis bien sûr, la glace, les confitures, les barres de céréales, les biscuits, les yaourts, les jus n'en sont pas exempts. Sur les 54 000 références analysées par l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, les 3/4 contiennent un ou plusieurs ingrédients sucrants. Sur l'étiquette, ça s'appelle le saccharose, le glucose, le sirop de mélasse, l'aspartame. Difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Néanmoins, les industriels ont fait des efforts ces 10 dernières années. C'est le point positif, note l'ANSES, une diminution significative de l'utilisation des ingrédients sucrants, en particulier dans les boissons sucrées.
Ce qui prouve bien que c'est possible. Sophie, on peut baisser la dose.
Oui, on peut reformuler un produit, en clair, changer la recette. Entre 2013 et 2019, pour les boissons sucrées type Iced Tea, le taux de sucre a baissé de 15%. Pour les boissons aux fruits type Oasis, 9% de moins. C'est un levier majeur pour préserver la santé, notamment celle des enfants, explique Julie Gauvreau-Bézia, chef de l'unité observatoire des aliments à l'ANSES.
On voit qu'il reste des marges de manœuvre de reformulation pour agir sur l'offre alimentaire et diminuer les teneurs en sucre. C'est possible, on l'a vu, et il faut continuer. Surtout, on voit que le consommateur accepte ces diminutions des teneurs en sucre puisqu'il ne se détourne pas des produits qui ont baissé les teneurs en sucre.
Désormais, plus un produit est sucré artificiellement, plus il est taxé. Une manière d'inciter le consommateur à rester dans les doses recommandées. La santé est à ce prix.
Sophie Bécherel, chef du service Science, Santé, Environnement de France Inter. Et voici l'une des vigies de la consommation. Le magazine 60 millions de consommateurs en grande difficulté. Il dépend d'un établissement public, l'Institut National de la Consommation. Ses ventes en kiosque ont quasiment baissé de moitié depuis le Covid. De même que les subventions de l'État, divisées par 2 ces 8 dernières années, Agnès Soubiran.
À la fin de l'année, les caisses seront vides. L'audit lancé par Bercy prévoit donc plusieurs scénarios, dont la vente du magazine, la disparition de la version papier et des suppressions de postes. Les salariés, eux, ont préparé une alternative, proposant une multiplication des missions d'enquête et d'information auprès de tous les publics. Lionel Mauguin, de 60 millions de consommateurs.
On avait fait, avec l'Union nationale des associations familiales, plusieurs enquêtes sur les frais d'incidents bancaires. Donc, on propose de démultiplier ça. On propose aussi de faire une newsletter hebdomadaire très précise sur l'actualité juridique, législative, qui pourrait intéresser aussi des grandes entreprises.
Et enfin, mener des missions d'éducation auprès des plus jeunes. La rédaction a reçu le soutien des associations de consommateurs car il est important de rétablir le rapport de force entre producteurs et consommateurs, estime Jean-Pierre Becquet. Il est le vice-président de l'Institut National de la Consommation.
Par rapport à toute l'information que les entreprises peuvent faire dans différents médias consacrés aux affaires, aux entreprises, etc., il y a un déséquilibre considérable entre les entreprises et les consommateurs.
Un investissement de 6 à 10 millions d'euros serait nécessaire pour relancer le titre, estiment les représentants du personnel, qui demandent à être reçus par Bercy. 6 à 10 millions d'euros, c'est aussi le prix de vente estimé du magazine.
Agnès Soubiran, des sous pour les fonctionnaires. Alors des économies budgétaires, ils n'auront pas d'augmentation cette année. Les négociations sont mal parties pour l'an prochain. Tous leurs syndicats les appellent à la grève et à manifester aujourd'hui dans toute la France. Les salaires qui font une bonne partie de l'attractivité d'un métier. Celui d'enseignant ne fait plus recette. Il manque des profs devant les élèves. Et pour la première fois, la justice va se pencher sur ces absences non remplacées. Ce sera tout à l'heure au tribunal administratif de Cergy, saisi par des parents qui veulent une indemnisation pour le préjudice subi par leurs enfants. 250 requêtes ont été déposées dans toute la France depuis 2 ans. Et voilà donc, Sonia Princet, les 3 premières examinées ce matin.
3 mois sans professeur de français, de l'anglais par intermittence, des cours de mathématiques sporadiques. Sa fille était en 5e lorsqu'elle a eu cette année scolaire très perturbée, comme l'explique cette mère d'élève.
Elle se pensait en vacances sur toute l'année scolaire parce qu'elle sortait à 2h de l'après-midi. Elle était libérée parce qu'effectivement tous les cours avaient été annulés. Enfin, c'était vraiment assez compliqué.
Cette maman a rejoint le collectif On veut des profs qui, dans un premier temps, écrit au rectorat pour obtenir des réponses, puis saisit la justice. Joyce Pitcher est avocate au barreau de Paris et coordonne les actions collectives.
Nous, ce qu'on a constaté, c'est que, quel que soit le niveau, il y a des absences vraiment qui sont répétées et surtout le problème qui se pose, c'est qu'elles ne sont pas remplacées. Donc, ce que demandent les familles, c'est que l'État prenne des dispositions pour remplacer les professeurs quand ils sont absents. Et donc là, dans le cadre de cette procédure judiciaire, ils demandent que l'État soit condamné financièrement à réparer le préjudice. On voit en moyenne que c'est 100 heures d'absence par élève dans les dossiers dont on est saisi. Donc l'objectif de cette action, c'est vraiment de faire réagir l'État.
Mais beaucoup de parents se découragent à l'idée de s'engager dans des démarches qui mettent très longtemps à aboutir. 2 ans, par exemple, dans le cas de cet élève de 5e, qui aujourd'hui est en 3e, dans un établissement privé.
Sonia Princet, où en sont les agriculteurs? Leurs 2 principaux syndicats ont rendez-vous avec Gabriel Attal ce matin pour faire le point sur les 62 mesures annoncées pendant la crise. Le rythme n'y est pas, dit le président de la FNSEA dans une interview aux Échos. Il réclame en outre une baisse des taxes sur le foncier et sur les transmissions.
Il est 8h09 à Gaza. Le numéro 3 du Hamas a bien été tué la semaine dernière.
Confirmation de la Maison Blanche à Washington après une frappe de l'armée israélienne sur un tunnel. Marwan Issa était accusé d'avoir coplanifié les attaques du 7 octobre. Depuis, Israël s'attaque sans relâche à l'organisation dans la bande de Gaza, au prix de dizaines de milliers de morts civiles dans des bombardements massifs. Et dans les ruines, Christian Chéneau, des ONG redoutent les risques à long terme des munitions non explosées.
Au-delà d'un bilan humain effroyable, les bombardements israéliens ont produit 23 millions de tonnes de débris, estime l'ONU. Lors des 3 premiers mois de la guerre, 45 000 bombes ont été larguées sur la bande de Gaza, endommageant totalement ou partiellement immeubles d'habitation, écoles ou hôpitaux. Mais les Gazaouis ne sont pas au bout de leur peine, leur territoire est désormais truffé, et pour longtemps, de bombes non explosées, explique Anneri, directrice du plaidoyer pour handicap international.
On estime que le taux d'échec, c'est-à-dire les bombes qui n'explosent pas à l'impact, est d'environ entre 10 et 15%. Ça donne une idée de l'ampleur de la contamination, environ 3000 engins non explosés qui sont dans les ruines des bâtiments détruits et qui représentent un danger mortel. En Syrie, on a des experts qui ont qualifié cette situation de millefeuille d'explosifs. On peut avoir des restes explosifs qui sont dans des étages, qui sont dans les ruines. C'est extrêmement dangereux, extrêmement long, extrêmement coûteux. Donc probablement pour des années ou des décennies.
Handicap International vient d'envoyer 2 spécialistes du déminage dans la bande de Gaza pour réaliser une première évaluation de l'ampleur de la contamination par des engins non explosés et notamment pour repérer les zones les plus dangereuses pour la population qui survit au milieu des ruines.
Christian Chéneau, depuis hier, c'est sur le plus grand hôpital de l'enclave que l'armée israélienne se concentre dans la ville de Gaza. Elle dit y avoir tué des dizaines de combattants et avoir fait 200 prisonniers après avoir appelé les civils à évacuer le secteur. Et puis ce matin, c'est le secrétaire d'État américain qui l'affirme, Anthony Blinken. Selon lui, 100% de la population de Gaza subit une insécurité alimentaire grave, citant des sources de l'ONU. 42 degrés sous abri ressentis 62. Le Brésil suffoque. Et la ville de Rio cuit à l'étouffée. Record de température battu dimanche. Fruit du réchauffement climatique et du phénomène El Niño, selon les experts. Et ça continue en ce début de semaine. Reportage à Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
En cette fin de journée, un vent timide chasse à peine la moiteur plombante. Leandro tente d'oublier la canicule en profitant de la plage.
Cette chaleur est difficile à supporter parce qu'elle est atypique, bien différente de celle à laquelle on est habitué. Du coup, on a filé à la plage direct pour tenir le coup. Impossible de rester chez soi, même si tu as la climatisation, imagine le montant de la facture. Mais là où il fait vraiment chaud, c'est dans la zone ouest. Samedi, les gens en étaient presque à pouvoir cuire des œufs sur le goudron.
C'est d'ailleurs dans la zone ouest, qui concentre de nombreux quartiers pauvres, que le record de température a été battu. Mais toute la ville est en surchauffe et ce sont les plus vulnérables qui souffrent le plus. Hernan vit depuis peu dans la rue et vend des bonbons sur la plage. La chaleur extrême rend tout plus difficile.
Le calor tá demais mesmo, sabe?
Il fait beaucoup trop chaud, des fois ça me décourage vraiment. C'est compliqué de travailler dans ces conditions. Je marche toute la journée dans la rue ou le long de la plage pour vendre mes produits et je finis par dépenser beaucoup pour acheter de l'eau. C'est vraiment dur, j'ai hâte que le froid arrive.
Selon les dernières prévisions, les habitants de Rio de Janeiro devront encore supporter ce genre de température, au moins pour les trois prochains jours. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
Voilà, pendant ce temps-là, le sud du Brésil subit des pluies diluviennes. Marseille, la Castellane, vaste opération de police hier contre le trafic de drogue. Ce matin, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont attendus sur place pour acter le lancement d'un plan d'action qui va durer des semaines et mobiliser des milliers de policiers. Comment vivre avec les loups? Ces trois dernières années, leur nombre a doublé en France. On en recense un millier aujourd'hui, parfois très loin de leurs foyers alpins d'origine. Pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux, l'État a donc décidé d'augmenter ses subventions, notamment en Bretagne, où le loup est de retour depuis 2 ans. Reportage Ajra Mohamed dans les Côtes d'Armor.
C'était en novembre dernier, en plein jour. Bernard Lemeur chasse le sanglier à Grasse, au sud de Guingamp, quand il le voit, le loup.
Il sort du petit bois et puis il longe tout le bord du bosquet, là. Je dis à mon fils, c'est un loup, c'est un loup, filme-le.
Il y a un loup, je vous dis, c'est un loup, les gars.
45-50 kilos, hein. Et puis une tête massive.
D'après la préfecture des Côtes d'Armor, la bête a été aperçu à 4 reprises et pourrait être impliqué dans 2 attaques l'an dernier contre des brebis et une chèvre. Alors les éleveurs s'organisent.
Fado, viens, allez, viens.
Christine Baudreau s'élève 80 brebis laitières à Landes-Béron.
Alors on a 3 border collies, puis on a surtout 2 chiennes de protection, une patou et puis une chienne à bruse pour que les troupeaux soient protégés. Moi je le prends comme une contrainte, je le prends pas comme un problème.
Il n'y a pas de psychose?
Non, je crois pas, non.
Dans le cadre du plan loup, l'État peut aider les éleveurs à financer la pose de clôtures électriques, l'acquisition de chiens aussi. Quant aux tirs de défense, les règles, même si elles restent très strictes, ont été simplifiées cette année, ce que déplore Franck Simonet, naturaliste et membre du groupe Loup Bretagne.
Parce qu'un loup mort n'est pas un loup qui apprend à se méfier de l'humain, à se méfier des chiens de protection. Donc c'est pour ça que nous, on préfère que l'accent soit mis sur l'anticipation.
Avec un objectif, assurer la meilleure cohabitation entre ces éleveurs bretons et cette espèce protégée.
Ajra Mohamed, cette année, l'État autorise l'abattage de 209 loups. Halte aux cadences infernales, les youtubeurs se les infligent eux-mêmes, parfois jusqu'au burn-out. Squeezie, Mastu, Théodore, Neoxy, ce sont des stars du net aux millions d'abonnés. Vos enfants les connaissent. Ils ont tous décidé de lever le pied ces derniers mois. Certains se sont confiés à Victor Vasseur.
La vidéo dure 8 minutes. Le temps pour Newty Tuff, alias Julien, de se confier auprès de ses abonnés.
J'ai rien écrit, voilà, je vous parle un petit peu directement de ce qui me pousse à vouloir faire cette pause.
Ce Dijonais de 29 ans pouvait publier jusqu'à 20 vidéos par mois, un rythme effréné qu'il ne veut plus.
J'avais besoin d'une pause pour me recentrer, pour aussi prendre des vacances, parce que j'ai jamais pris de réelles vacances en 12 ans. T'es jamais au repos complet, vu que t'as toujours les yeux sur les commentaires, qu'il faut toujours alimenter en contenu, parce que sinon les gens t'oublient. Et c'est vrai que YouTube est vraiment très anxiogène, avec des flèches vertes quand ça marche bien, et avec des flèches grises quand ça marche pas du tout.
Cette fatigue mentale, Clément, 24 ans, la ressent avec sa chaîne Anonymal sur YouTube, où il teste toutes sortes d'objets.
Ça me faisait peur de mettre des vidéos, tout simplement. Je ne le ressentais même plus, hein, mais tous les jours, j'avais une boule au ventre de stress. Quand j'ai arrêté, quelques mois après, genre 4 mois après, ça a disparu. Je me suis dit, ah, marrant, j'avais pas conscience que je l'avais.
Ces youtubeurs sont aussi des chefs d'entreprise, parfois noyés dans l'administratif.
C'est vrai que la paperasse au début, le légal, t'es pas entouré. tu vois que tu fais une vidéo, au final, la marque a le droit de la reprendre sur tous ses réseaux, d'en faire ce qu'ils veulent et tout. Tu te fais avoir sur des contrats.
Pendant sa pause, Clément a lancé son agence pour épauler des créateurs de contenu, les guider et les mettre en relation avec des marques.
Et voilà, du contenu, en voilà justement au Festival Sérimania toute cette semaine à Lille. Contenu politique à sensation, c'est la série Dans l'ombre, adaptée du roman écrit par Édouard Philippe et son acolyte Gilles Boyer. On entre dans les coulisses d'une campagne présidentielle située en 2025 avec Swann Arlo, Melville Poupeau, Karine Viard. Mais difficile, Alexandra Akoun, de ne pas y voir une mise en abîme pour l'ancien Premier ministre.
Quasiment toute l'équipe a fait le déplacement, exception faite d'Édouard Philippe, mais l'ombre de l'ancien Premier ministre n'a cessé de planer sur cette avant-première, quitte à agacer celui qui s'est attelé à mettre en scène le roman publié en 2011, le réalisateur Pierre Scholler.
On connaît les phénomènes d'interférence, c'est pas un geste politique cette série. Et si Édouard Philippe vient, il va parler en tant qu'homme politique. C'est ma série, c'est pas la série d'Édouard Philippe.
Le maire du Havre et son ancien conseiller à Matignon, l'eurodéputé Gilles Boyer, ont pourtant largement contribué à rendre crédible ce thriller nerveux, centré sur les loyautés et les trahisons entre un candidat et sa garde rapprochée.
Si vous cherchez la normalité, vous êtes trompé de porte.
Au générique, ils sont co-scénaristes.
Avec Édouard, quand un homme politique parle, eh ben on sait à peu près ce qu'il pourrait dire dans telle situation, ce qui passe dans les regards, les non-dits, les phrases non finies, les ambiguïtés.
J'ai rien à craindre de ce qui est vrai. J'ai un peu plus peur de ce qui est faux. La rumeur. Plus tu la dément, plus les gens y croient.
Seuls deux épisodes ont été dévoilés, suffisants pour être frappés par la ressemblance entre Paul Francoeur, interprété par un Melville Poupeau à la barbe bicolore, et le patron du Parti Horizon.
Non, bah, il n'a plus la barbe bicolore. Et puis en plus, dans le roman d'Edouard Philippe et Gilles Boyer, le parti n'est pas typé à droite ou à gauche. Et là, dans la série, je trouve que ça se passe dans le camp de la droite. Je pense que les gens peuvent s'approprier cette histoire-là hors du contexte politique actuel.
À condition de patienter encore un peu, la diffusion, ce sera pour l'automne prochain sur France 2.
Alexandra Akoun, merci.
Et merci à vous Florence Paracuellos. 9h20, Léa Salamé reçoit, je vous le rappelle, le musicien Mir Weiss. Il revient sur l'aventure de son groupe Taxi Girl dans un livre à paraître aux éditions Séguier. Ce sera jeudi en librairie. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Et encore pas mal de grisailles matinales, Marie-Pierre.
Eh oui, Nicolas, sur les trois quarts du pays, un débrouillard parfois nombreux, doublé d'entrées maritimes comme sur les côtes varoises, la côte d'Azur, les côtes corses. Et puis on a pas mal de nuages qui proviennent d'une goutte froide qui se balade sur l'Atlantique et qui couvre les régions bretonnes au Cotentin, accompagnées d'un bon vent. Et puis sur le sud-ouest, on a encore de l'instabilité qui remonte d'Espagne, donnant averses ou même des orages sur les Pyrénées. Et sur toutes les autres régions, il faudra attendre la dissipation des grisailles pour voir le soleil dans une ambiance un peu plus fraîche qu'hier, zéro seulement à Chambonchard dans la Creuse, 3 à Saint-Étienne, 5 à Brive ou Strasbourg. Vous avez 9 à Lille, Paris comme à Auch et il fait 11 à Lorient, Antibes et Calvi.
Et très belle amélioration cet après-midi.
Oui, on va se croire au mois de mai, Nicolas, pratiquement sur tout le pays après la dissipation des grisailles matinales, avec quelques bémols encore comme près de la Manche, car on aura toujours ces nuages de la Bretagne à la Normandie, à la baie de Somme, aux côtes du Pas-de-Calais. Et puis sur les Pyrénées, le ciel restera instable avec des averses, voire des orages, comme en Corse aussi, et sur les Alpes-Maritimes. Ailleurs, ce sera soleil parfois voilé sur toute la façade est, avec des valeurs qui continuent de monter. Il fera 14 à Quimper et Cherbourg. Vous aurez 16 à Nice et à Val-d'Ouin dans le Rhône. Comptez 18 à Paris comme à Bastia-Besançon. 19 à Nevers, à Lyon, Marseille. Et vous aurez 22 à Bordeaux, 23 à Narbonne et à Gordes dans le Luberon, en se rappelant que, pour la Saint-Joseph, chaque oiseau bâtit son château.
C'est tout mignon.
Au
merci.
Boulot.
Oui, au boulot. Merci Marie-Pierre. Il est 8h20.